sympa la prog. Allez, c'est parti. Thomas ?
Oui.
Ah, mais
oui, oui, ton pardon, prompteur.
Je dors, pardon.
Tu dors, la choucroute hier était Allez. Fabuleuse. On vous en parlera pas, c'est un truc privé.
Allez, c'est bon.
C'est le Fight
Allez,
Club.
On commence. Vous écoutez Radio FMR.
Non, tu me l'as refait, voix plus chipienne, 103.5 FM.
D'accord, plus sensuel et plus suave. Ouais.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 30 octobre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le plein de super que vous attendez tous. Que vous attendez tous.
Oui, mais les camions sont en train de livrer.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Elle est un creuset de mélange de cultures étonnant. Le vaudou y côtoie le gospel. Et c'est ainsi qu'est né le jazz.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Rich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, nous sommes donc le 30 octobre, ce qui veut dire que demain soir, partout dans le monde, sauf en France, on n'en a pas besoin, nos petits-enfants vont demander des bonbons ou un sort. En France, on envoie plutôt la police de l'immigration. Non, je vais pas faire mon Gérard Darran, je sais, il a tenu un mois à France Inter, il s'est fait virer. Ceci dit, mais parce que c'est Halloween, moi, j'ai une histoire d'horreur.
Attention.
Alors, figurez-vous que Astérix numéro 3, Astérix aux Jeux Olympiques, programmé dimanche dernier en première partie de soirée par TF1, a été la meilleure audience pour un film depuis décembre 2008, toutes chaînes confondues. 10 millions de personnes, 38% de parts de marché. Alors que le film... oui, non, il a plutôt bien marché au cinéma, mais pas autant que le Astérix numéro 2. Il a été un échec critique... critique et
total fêlure.
Et en fait toute l'intrigue ne se passait pas dans le film lui-même mais juste avant la sortie du film.
Oui, alors ça pas grand monde, enfin tout le monde n'est pas au courant,
donc tout le monde n'est pas au courant, donc on va un petit peu faire un résumé et on renverra vers le site Actua BD qui raconte histoire en long, en large, en travers, que tout simplement Albert Uderzo avait refusé à l'équipe du Splendide de faire leur Astérix dans la lignée de ce qu'avait fait Alain Chabat. Comme l'équipe s'était réunie, ils avaient commencé à monter un financement. Ça a donné les Bronzés 3. Voilà. Et d'un autre côté, eh ben, Thomas Langman, qui a été le producteur et co-scénariste de l'histoire.
Fils de Claude Berry, qui avait produit le premier aussi.
Voilà. Sauf que l'histoire qui a été grinçante, c'est quand Albert Uderzo, le dessinateur de la série, est allé voir en pré-projection l'œuvre. Et au générique, il voit en producteur associé sa fille et son gendre. Et c'est là où l'histoire a tourné au vinaigre. Ça s'est terminé avec une affaire au prud'homme, puisqu'il a viré sa fille, il a viré son gendre, il a déshérité sa fille. Bref, c'est Dallas, au pays des bulles.
Ça a tourné au vinaigre de framboise.
Mais c'était très mignon. Bref, on en est un petit peu surpris. Et là, on se dit quand même, Astérix 3, c'était une catastrophe.
Ah oui, oui, oui.
Enfin, toi, t'es allé le voir, moi, j'ai même pas osé.
Je trouve que c'est pas aussi catastrophique que le 1, parce que c'était pas possible de faire pire, mais le 3 est quand même bien.
Avec la super potion magique.
Avec la super potion magique et la migale qui s'enfonce dans la bouche d'Astérix. Ça, c'est du Astérix tout craché. Ah oui, chercher l'erreur. Sinon, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est... Oui. Alors, nous avons chopé une info sur le net, car Le Domaine des Dieux sera la prochaine adaptation en film d'animation, produit donc par SND et M6. Ce sera un film d'animation en 3D, le premier, puisque...
SND étant la filiale commune entre Gaumont et M6. Hein, donc, c'est M6 qui reproduit avec M6, voilà.
Voilà, et ce sera écrit, cette adaptation du Domaine des Dieux sera donc écrit par Alexandre Astier. Voilà, donc en VO, ça s'appellera The Land of the Gods, et avec les voix de Paul Giamatti, de Shane Austin et de Ivan Rachel Wood. Donc ce sera donc Le Domaine des Dieux, le prochain film d'animation en 3D, et sachez aussi que le prochain film live...
Là, c'est dommage, Alain Delon en César, il l'aurait fait.
Oui, mais
à cause du monologue au début de la BD.
Oui, oui. Mais Alain Delon en César, ça le fait de toute façon. Hein. La prochaine adaptation live de la franchise Astérix, ce sera donc le quatrième Astérix, Astérix chez les Bretons, Astérix in Britain, réalisé par Laurent Tirard, donc qui a fait une carrière de scénariste et de réalisateur, et à qui l'on doit dernièrement l'adaptation du petit Nicolas sur grand écran.
Un autre Goscinny.
Un autre, oui, tout à fait, un autre Goscinny.
Et d'après les critiques, plutôt bien adapté, donc peut-être une chance que ça soit.
Oui, donc nous ne l'avons pas vu ici, voilà.
On peut pas en dire beaucoup, donc on attend de voir de ce que
et
donnera.
Et pressenti donc toujours Gérard Depardieu dans Obélix, donc là il n'y a pas de problème, parfait. Et Laurent Dutch en Astérix. Non, c'est pas pour
moi. Ben, d'un autre côté, c'est toujours mieux que Clavier.
Ah bah, Clavier, il était excellent dans le 2, on le voyait quasiment pas.
Allez, bon, cette vanne, elle est passée, elle est spontanée. On passe aux chroniques BD. Avec Sabu et Ichi, le premier tome de cette tétralogie est sorti dans la collection Sensei chez Kana et du Thomas le passe à bout de deux bras à du sport. C'est de Shotaro Ishinomori. Alors voilà, typiquement, un immense classique que le besoin de faire découvrir à un public français amène à un repoussoir. Par exemple, il y a quelques années avait été traduite la manga Versailles no Bala, plus connue sous le nom du dessin animé en France, c'est-à-dire Lady Oscar. Et ben malheureusement, l'éditeur qui a traduit ce classique n'a nullement traduit le titre de l'œuvre. C'est resté Versailles no Bala, donc les roses de Versailles, ils l'ont traduit littéralement. Ce qui fait que déjà, bien des acheteurs potentiels sont passés à côté. Mais en plus, la BD fut traduite en deux tomes de 900 pages chacun. Alors quand on est face à de tels pavés, ça n'aide pas vraiment à l'achat. Alors pour Sabu et Ichi, si Kana voulait s'aborder la sortie, eh ben ils ne pouvaient pas faire mieux. 1136 pages pour ce premier tome. J'ai oublié de mesurer en centimètres, mais ça doit faire aux alentours de 7-8 cm d'épaisseur. Ça fait le format d'une Bible, hein, quasiment. Hein, je pense que là-dessus.
Ça dépend de la Bible.
Ouais, non, mais je parle pas de celle des Mormons, bien sûr. Et sur la couverture, on a un 0-1 qui laisse suggérer que ce premier tome vous faudra plus d'un mètre de large pour les 10 premiers tomes. Eh ben, les apparences sont heureusement trompeuses, puisqu'il n'y en aura que 4. Et le gros avantage de ce pavé, eh ben, cela reste un prix franchement modéré vu la quantité et surtout la qualité. 30€ par tome. Et ça le fait merde, quoi. Alors pour commencer, parlons de l'auteur, dessinateur japonais trop méconnu sous nos longitudes, disparu en 1998 et qui a eu ses heures de gloire dans les années 60-70. Il fait partie de la génération formée par Osamu Tezuka, et il avait notamment installé pour ses séries certaines conventions. Il avait inventé pour la télévision le concept de Super Sentai, vous savez, le héros qui se transforme pour combattre des insectes caoutchouteux dans une autre dimension. En France, c'est Kamen Rider, c'est lui qui a inventé justement ce genre-là par cette série-là.
Yo man, oui.
Et tout ça, ouais. Et tout ça. En France, on a déjà pu apprécier Cyborg 009 et plus récemment sa biographie d'Okusai. C'est quand même le grand écart, hein. C'est-à-dire la série live en télé, Cyborg 009, qui est justement l'ancêtre de Bioman, et puis Okusai, qui est la biographie du peintre mondialement célébré. Du sport et Ultimatum en seront témoins, ce sont deux excellentes séries.
Oui, nous en sommes témoins.
Bah, merci. oui. Je suis encore plus fan de l'auteur, parce que parmi ses œuvres, on compte 100 Kukai adaptés en série
télé. C'est
la
bataille.
Kukai.
C'est la bataille.
Avec acteurs, mais je parle d'une époque que les jeunes de moins de 35 ans ne peuvent en connaître le ridicule. Faut savoir que l'adaptation était plus et moins aussi surfée sur la vague de Star Wars.
Oui, non, mais ça fait rien, hein, c'était tout à fait, c'est tout à fait regardable. Hein.
C'est pas ça, ah oui, non, mais c'est très fun, c'est rigolo.
Ah, c'est Zoom. Non. C'est Zoom intempestif.
Enfin bref. Mais Sabu et Ichi n'est pas une œuvre fantastique ou de science-fiction. C'est un roman en costume d'époque. L'époque, c'est celle du Japon du début du 19e siècle, période du shogunat tout-puissant, mais aussi des limites de la politique d'autarcie Sakoku, des traditions fortes, un système féodal, mais une crise monétaire intérieure, une société qui évolue peu, des sciences qui ne profitent pas de l'immense progression de la sphère occidentale, au point que les médecins sont obligés de revendiquer une médecine hollandaise, ayant restreint aux Européens l'accès de l'archipel qui a une toute petite île. Sabu est un jeune. Il semble avoir 15 ans au début de l'histoire, puisqu'au fur et à mesure du tome, justement, il va grandir. Il exerce en ce temps que Shitapiki, c'est une sorte de policier municipal privé, si vous préférez. Une délégation de services publics à des indépendants... Pardon, excusez-moi. Bref, c'est quelqu'un qui maintient l'ordre, payé par des fonctionnaires sur les deniers propres des fonctionnaires. Mais son intelligence et son intuition font qu'il s'est fait remarquer sur sa manière de résoudre des enquêtes difficiles. Il manie avec beaucoup de dextérité la corde lestée. Et il est accompagné de Ichi. Ichi est un masseur aveugle, au sens aiguisé et à l'intelligence affûtée, maître de l'usage de la pierre de Go comme arme de combat, et expert en Niaido, c'est l'art de tuer, vous savez, en dégainant l'épée. C'est-à-dire au moment où je commence à dégainer légèrement mon sabre, quand je vais le dégainer, il y aura un mort. Sabu et Ichi sont donc deux enquêteurs privés, payés par le Dōshin, le fonctionnaire de police chargé de la paix dans le quartier. Il faut dire que ce dernier est atteint d'une goutte et qu'il peut difficilement se mouvoir pendant certaines saisons. Nos deux héros vont donc résoudre à sa place et sous son mandat des affaires de voisinage, des meurtres sordides, des chantages, des frasques de samouraïs bourrés. Dans Edo, il s'en passe des choses. Les histoires sont solides, l'intrigue est rythmée entre les scènes d'action et les parties de Go ou d'échecs japonais, entre Ichi et Sabu, devisant en réfléchissant à leurs enquêtes. Les combats sont dynamiques, époustouflants de mise en scène. Chaque enquête fait environ une soixantaine de pages et sont captivantes. Et quand le lecteur commence à être bien dans le bain, il va découvrir des fêlures. Les héros, eux aussi, ont leur part d'ombre, la série en devient encore plus intéressante du coup. Il faut dire aussi qu'en 1966, au moment où sort cette manga en revue, on est en plein dans la période d'or du film de Chambara. Les films de samouraï seront applaudis à Cannes et influenceront des réalisateurs italiens qui préparaient la sauce de leur western. Il est logique qu'une BD sorte au même niveau époustouflant que ces films. Sabu et Ichi est un classique dans le sens qu'il a très bien vieilli et que cette œuvre fleuve nous surprend par sa fraîcheur et ses idées. Bref, Shotaro Ishinomori est vraiment trop méconnu. Il faut vraiment que vous fassiez l'effort d'entrer dans cet intimidant pavé, parce que vous allez vraiment l'adorer. Sabu et Ichi, c'est le premier tome d'une tétralogie, donc il n'y aura que 4 tomes, donc réservez une vingtaine de centimètres sur vos étagères, mais ça vaut vraiment le coup. C'est dans la collection Sensei chez Kana, et finalement, que ce soit des gros tomes, c'est intéressant financièrement.
Si on n'avait pas autant de BD à lire en retard... C'est vrai que ce nombre de pages, ça fait peur. Enfin, du sport, il a pas l'air, mais...
Non, parce que c'est quand même, au niveau du graphisme, c'est, on va pas dire simpliste, hein, mais disons, c'est très léger, c'est très aéré. Donc, ça a l'air de se lire quand même assez facilement, je pense, quoi. Le maillage des cases, je sais pas comment on appelle ça.
Le gaufrier, la planche en elle-même. Voilà, la planche, il y a à la fois des tableaux et à la fois du dynamisme dans les combats.
Ça reste très classique encore, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'image qui va exploser, qui va sortir du cadre.
Non, on n'est pas dans du clamp.
Qui va se mettre en. Enfin, tu vois, reste vraiment encore très, très léger, donc assez facile à lire, hein, je pense, quoi.
Mais c'est vraiment hyper agréable, et puis surtout il y a cette différence de rythme, c'est-à-dire quand tu as une course poursuite et puis après en fait il dévise, il dialogue devant une partie de Go, En même temps, ils disent, tiens, ta stratégie, je te sens pas très concentré. Oui, en fait, là-dessus, non, parce que tu viens de mettre une pierre en position faible. C'est amusant, quoi. C'est ça. Enfin, moi, ça a vraiment été un plaisir. Donc, Sabu et Ichi, tome 1 sur 4 de la collection Sensei Shikanai, il m'a fallu 3 semaines pour le chroniquer. Hein. C'est-à-dire, bon, je pense que si je n'avais eu que ça à lire, je l'aurais sûrement dévoré en 2 nuits. Ça, c'est évident. Voilà, c'est un classique et c'est pour ça qu'il sort dans la collection Sensei, justement.
Ah, mais parce que tu lis plusieurs BD en même temps, toi ?
Tu sais, je savais que j'allais pas arriver à le terminer à temps pour le prochain Super Week-end, donc il fallait que j'en lise d'autres.
Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ça dépend où elles sont placées, si c'est dans la chambre, si c'est aux toilettes, ça dépend où tu es aussi. Ouais.
Spoon and White reviennent. Ah. Jean Léturgie et Simon Léturgie. Jean Léturgie, le papa, il est au scénario et Simon Léturgie est au dessin. Et c'est le 8e tome, s'appelle Neverland et c'est chez Vent d'Ouest. Et Yann a laissé les rênes de la série au père et fils Léturgie. Le scénario comporte du coup plus de délires référencés, mais possède une excellente mise en scène à base de flashbacks. La construction de cet album est vraiment remarquable de ce côté-là. C'est même carrément une leçon cinématographique, à mon sens. Et l'histoire commence alors qu'on est sans nouvelles depuis plus de 2 mois du vol 815, disparu des écrans radars. Or, dans une île tropicale retirée des voies maritimes, il y a des survivants de cette catastrophe. Et là, vous allez me dire « Stop in the name of love !» Bref, bon, vous avez compris que Spoon, White et Balcony se sont retrouvés échoués dans une parodie de Lost. Combien de temps White, descendant du Mayflower, va-t-il tenir sans ressortir le besoin génétique d'évangéliser les indigènes ? Comment Spoon tiendra-t-il sans une rediffusion d'un seul film de Clint Eastwood vu depuis plus de 2 mois ? Et la belle Balcony, est-elle vivante ? Cet accident d'avion est-il vraiment un accident ? Ou son scoop mettait-il vraiment en danger des intérêts vraiment très haut placés ? Alors maintenant, vos zygomatiques vont pouvoir esquisser le sourire carnassier de circonstances si on compte parmi les malheureux survivants un écologiste végétarien ex-star de télévision, un belge cynique et, en forme de ficelle wallonne, un pirate des Caraïbes et un gros dégarni qui refuse de refaire ses lacets. C'est méchamment drôle, c'est parfaitement irrévérencieux, bref, dans la dritte loigne, dans la droite ligne de cette excellente série. C'est une fois de plus les aventures les plus catastrophiques des deux policiers les plus dangereux d'une NYPD. Mais juste dommage pour les habitants de New York que bien évidemment le répit soit de courte durée. Le trio infernal sera de retour pour rendre les rues moins sûres. Spoon and White, 8e tome, s'appelle Neverland, c'est chez Vent d'Ouest et ça se passe sur une petite île déserte et... voilà. C'est haut en couleur et si vous êtes fan de séries de télé et tout ça, et ben c'est vraiment un grand moment.
Là, j'ai reconnu l'ours polaire.
Oui, 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 c'est vrai. Il y a plein de gags dans tous les sens et là-dessus, c'est vraiment hilarant, quoi. Midi 18 sur la poubelle des radios. Assaut sur le 13e district, mais c'est l'original évidemment. Bah ouais, un petit peu obligé hein, quand même. Mince, c'est tout ça. Je regarde juste si on a des bandes annonces. Non, même pas, toujours pas. Donc c'est une catastrophe. Merci les gars, c'est toujours fait. Par-dessus la jambe. Et ben on va enchaîner avec les chroniques bande dessinée avec la dernière chronique de cette semaine et elle est hyper attendue, surtout par un lecteur qui est sous d'autres longitudes comme je dis. Coucou Jean-David. Oui, c'est bien Morvan qui scénarise cette série et Philippe Bûcher qui font le dessin. C'est une série qui débute depuis 15 ans et qui cartonne toujours aussi bien. Et moi, j'en suis horriblement fan. Il s'agit de Sillage. Le tome 13 s'appelle Dérapage contrôlé. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Et Sillage, c'est un album par an. Je parle pas des séries filles comme les chroniques de Sillage, Navis et tout ça. Et on pourrait croire que la série ronronne passait un certain cap. Eh ben non, pas car les auteurs refusent de s'enfermer dans un schéma. Philippe Bûcher continue à créer des races extraterrestres et des décors originaux à chaque album. Il y a très peu de réutilisation, dans des formes improbables et toujours avec la maîtrise graphique qui le caractérise. Jean-David Morvan, lui, il remet toujours en question son personnage. Ainsi, la belle Navis a perdu son statut d'agent très spécial de Sillage. Elle a perdu son petit confort. Elle refuse de voir ses amis et elle a dû s'associer à un avocat spécialiste des dossiers qui pue. Bref, Sillage, par son background, celui d'un convoi de milliers de races aliens voguant de planète en planète, permet aux auteurs de créer un univers à foison et ils ne s'en privent pas. Une Navis, devenue paria, est prête à tous les métiers louches. C'est ainsi qu'on ne sait trop comment elle se retrouve embrigadée dans une suite de courses sauvages et dangereuses. Les dragsters à trois roues, en pilotage intégralement manuel. Faire des courses sauvages, ça pourrait passer encore, si ce n'était pas en environnement plutôt, je vais dire, urbain. Puisque le but du jeu est de provoquer des dégâts spectaculaires. C'est bien évidemment l'argent des paris sportifs illégaux et l'abonnement à des chaînes de télé sauvages qui motivent ces courses. Et je doute que cela soit le manque d'adrénaline ou le besoin de se rebeller contre Sillage qui fasse courir Navis. Même si la seule humaine de Sillage a une sacrée réputation de casseuse de matériel, il y a sûrement quelque chose qui la motive pour s'être retrouvée dans cette mafia. Je vous ai juste donné les plans du début car la suite de l'histoire promet son lot de twists bien amenés. Et les fans de la série m'en voudrait, à mon avis, beaucoup d'en dire un peu trop. Donc non, la série ne ronronne pas, elle tourne à plein régime, sans assistance informatique, dans des trajectoires aussi audacieuses que dangereuses, et c'est assez intéressant de marier science-fiction avec des courses sauvages en moteur thermique, digne des films des années 70, comme Death Race 2000 ou Cannonball, avec des carambolages spectaculaires et des médias cyniques, les flics aux trousses et des aliens qui apprécient leurs cigares selon les différences de leur système respiratoire. Sillage, tome 13, Dérapage contrôlé, c'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Philippe Bûcher au dessin, Jean-David Morvan au scénario. Et je suis trop fan pour en parler. Voilà, donc je laisse quelqu'un qui n'aime pas la série en parler.
Ah, y a personne qui aime pas la série ici.
Eh ouais.
Y a juste peut-être des connaisseurs qui le sentent un peu moins que d'autres. Est-ce qu'il y a du gravier dans cette.
Ah bah oui, ah bah oui, c'est l'intérêt, c'est les catastrophes qui. Les accidents imprévus, voire parfois avec des civils. C'est plus drôle.
D'accord.
C'est plus drôle. Évidemment, quand tu as les flics qui arrivent pour essayer d'arrêter ces espèces de sauvages qui ont des moteurs surpuissants, bah on est obligé de sortir un peu l'arme lourde. D'accord. Je vais pas dire que ça aide vraiment à pacifier immédiatement le code de la route. Mais après tout, ce qui se passe ce week-end, je rappelle quand même que la Toussaint, c'est le week-end le plus meurtrier sur les routes. Autoriser les camions citernes à rouler le dimanche et le lundi. Ça va pas aider non plus. Le supplément week-end numéro 255. Pour les informaticiens qui vont peut-être comprendre la suite que Thomas n'a pas compris, 255 ça veut dire l'émission 256, ça veut dire que si vous nous écoutez en MP3, la prochaine émission vous aurez peut-être du mal avec le numéro d'épisode. Vous étonnez pas, c'est normal. Et tant mieux, ça se fêtera. On fera une spéciale bug la semaine prochaine. Non, vous n'avez pas compris et tout. Bah,
256 kilo 8, je sais pas quoi.
Bah, 256, c'est 2 exposant 8 et les caractères sont codés sur 256 possibilités. Or, ça va de 0 à 255. Quand on arrive à 256e, on est obligé de tricher. Les vieux lecteurs MP3 risquent d'avoir du mal à passer le prochain numéro d'émission.
On a dépassé ce cap.
Bah non, c'est la semaine prochaine. C'est la 255e.
Je parle de la technologie en 256.
Bah, t'as du vieux code source qui traîne encore, hein, je dirais. Ça m'étonnerait pas que des appareils comme par exemple des iPhones, ils plantent sauvagement.
Ça, c'est comme le bug de l'an 2000, hein, qui n'a pas eu lieu en fait.
Si, il a eu lieu commercialement, ça a été une fabuleuse. Nine Inch Nails, Piggy, Nothing Can Stop Me Now. Une transition idéale entre sillage et la suite. Nine Inch Nails, à l'époque, toujours, et il y a toujours un 13 d'or à la tête. Piggy, Nothing Can Stop Me Now, Further Down the Spiral, c'était la transition idéale juste avant la chronique cinéma et que je... Oui ? Oui, bah non, mais je croyais qu'il n'y avait pas de publicité, excusez-moi, je discutais avec la régie finale. D'accord, ok, donc il est midi 28, donc on passe quand même la pub. Ok, soit.
Try to remember
when life was
so tender and happy.
Ouais, franchement, c'est malin ça. Allez. Hein.
Oh,
C'est pour ça que je chante toujours un octave plus bas au bout d'un moment. Le cinéma vous est présenté en Dolby Mono sur un très très snore.
Voilà, alors on se connecte et on va aller voir dans le flux d'actualité sur les murs des gens. The Social Network aujourd'hui de David Fincher qui a ajouté comme ami Jesse Eisenberg, Justin Timberlake et Andrew Garfield. Université de Harvard en 2003, Mark Zuckerberg vient de se faire plaquer par sa petite amie. Pour se défouler, il lâche un texte sur son blog, mais pas que. Il pirate aussi les fichiers d'étudiantes de plusieurs universités pour établir un classement féminin. Repéré par deux... Or, il se fait taper sur les doigts. Mais il est quand même repéré par deux étudiants brillants. Il est chargé pour eux de plancher sur un réseau social. Facebook est en train de naître. Mark va s'enquiller des procès concernant la paternité du réseau, mais va aussi devenir le plus jeune milliardaire au monde.
Donc et voilà. Il est toujours le plus jeune milliardaire au monde. Hein.
Voilà, tout à fait. On peut pas avoir 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis. C'était la tagline de l'affiche du film.
Elle était excellemment bien trouvée.
Voilà, et l'affiche, c'est un gros plan de Mark, joué par Jesse Eisenberg, qu'on avait pu découvrir dans Juno, qui était le petit ami de Juno, justement. Et donc c'est...
500 millions d'amis, d'ailleurs, il faut préciser pour les gens qui, comme moi, refusent d'aller sur Facebook, c'est que votre premier ami sur Facebook...
C'est lui.
C'est lui, voilà.
Donc, le fil conducteur du nouveau métrage de David Fincher, car c'est le nouveau long métrage de David Fincher, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est en effet constitué de le fil rouge et c'est deux procès que sont qui dans la tête Mark Zuckerberg. On a le procès que lui intentent les deux jumeaux, les deux têtes pensantes d'Harvard. Donc ce sont deux frères qui sont champions de comment on appelle ça où tu as la rame
d'aviron.
Voilà, aviron, voilà. L'aviron bâillonné. Et donc, ils font un procès dans lequel le témoin, c'est Eduardo, l'un des premiers amis de Marc. Et dans le second procès, c'est Eduardo qui intente un procès à Marc avec d'autres témoins. Donc voilà, c'est les deux fils rouges, il y a deux procès en même temps. Et en même temps, vous voyez donc la progression sur les bancs d'université en 2003 de Marc, où il fait les premiers pas dans The Face Match, qui va devenir ensuite Facebook. Ensuite, il va trouver une idée. Tiens, il y a quelqu'un qui lui dit j'arrive pas à trouver une petite amie. En même temps, Marc lui dit ouais, c'est bon, c'est pas comme si il y avait une nana qui avait un panneau, il y avait marqué célibataire. Oh putain, j'ai une idée. Voilà, tu vois, dans le film, en fait, les idées qu'il a pour créer justement le réseau Facebook. Et donc, on voit la progression, en fait. Donc, dit comme ça, ça a pas l'air passionnant. C'est pas non plus très passionnant dans le film. Donc, on voit le réseau Facebook. Alors, il se fait des amis, il trouve les investisseurs. Il était obligé de renier un petit peu ce qu'il a fait, ses premiers réseaux d'amitié pour en trouver des nouveaux. Ensuite, on voit que Facebook commence à être connu un peu partout aux États-Unis dans les universités. Ensuite, il est connu en Europe. Bon, finalement, en fait, le principal sujet du film, c'est Facebook. C'est pas les personnages. D'ailleurs, heureusement, parce que les personnages, on a un peu de mal à s'identifier à eux, à les prendre pour sympas, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a les deux jumeaux étudiants d'Harvard, donc c'est des gars froids qui réussissent
c'est
toujours tout.
C'est des standard nerds.
Bah, c'est ça, c'est que c'est des gens qui sont pas très sympas au début, mais finalement, tu trouves que c'est pas vraiment les pires enculés du film, parce que, en fait, ils ont eu l'idée de créer le réseau, et ils se sont fait doubler par Mark Zuckerberg, et finalement, ils deviennent sympas. Parce qu'il y a un frère, un des deux frères en fait, qui veut vraiment buter la gueule à Marc, et l'autre il dit « Oh mais non, on est de Harvard, on a un certain code moral à respecter et tout. » Puis à un moment donné, ils se font battre en aviron, et puis ils voient que, après dans les discussions, dans le cocktail, parce qu'il y a le prince Albert de Monaco aussi qui arrive, et puis ils voient qu'en fait il y a un Facebook, quoi, vous connaissez ça en Angleterre ? Oh putain, il faut buter du nerd. Il commence à péter un câble, c'est bon, il commence à enquiller le procès vers Marc. Après, on a donc Sean Parker, donc joué par Justin Timberlake, donc c'est le papa de Napster. Alors lui, c'est bon.
C'est assez rigolo d'ailleurs que ce soit un artiste musical qui joue le rôle du premier site qui a vraiment. Populariser le piratage de la musique, quoi.
Voilà, donc là on le voit frimeur, il adore les boîtes de nuit, il s'enquille les cocktails, comment ça va ma poule.
Bah voilà, mais Justin Timberlake il se plaignait qu'il avait pas le rôle du bad guy au cinéma qu'on lui proposait jamais.
Ah oui, alors là, par contre, c'est le vrai bad guy hein, du film. Eduardo, donc c'est le premier véritable ami de Mark, qui est donc le commercial de Facebook, qui va se faire enculer par tout le monde.
Il y a son commercial.
Ouais, ben en fait, le contrat en fait qu'il signe stipule que il doit céder plein de parts et en fait, il faut lire entre les lignes. Alors c'est le mec qui est le plus trahi par Mark et finalement, c'est lui finalement le plus humain hein, du film et finalement, t'as Mark donc le papa de Facebook, un mi-chemin entre le geek génial mais décalé qui se balade toujours en suite à capuche. Alors tu dis bon, ça va pas être un mauvais bourre si se trimballe toujours en suite à capuche. Puis en plus au début,
attends, voici un nerd en suite à capuche.
Mais bien sûr, sachant que Thomas actuellement est en suite à capuche. Hein.
Salut JB.
Bonjour. Allez, vas-y, reprends ta chronique.
Et donc alors voilà, donc du coup Mark en fait il décalé, tu sais pas trop, c'est une personnalité insaisissable dans le film. Tu sais pas trop si c'est un petit con sans morale qui grille tout le monde ou si c'est juste le géniteur qui est dépassé finalement par sa création. Il y a plein d'investisseurs qui vont se greffer dessus. On le laisse relativement tranquille parce qu'on dit ouais, allez, vas-y, bouffe du code. Ouais, c'est toi le petit génie, vas-y, continue. Et finalement, il se fait dépasser vraiment par le réseau social qu'il a contribué à créer. Enfin, qu'il a créé, que les autres ont contribué à créer avec lui. Et alors, tu vois que c'est un petit jeune qui, tu sais pas trop. Donc, il a la première scène, vraiment, elle est incompréhensible parce qu'il parle de trucs de geek à sa copine qui comprend absolument rien. Il parle à un débit de mitraillette, t'as les sous-titres qui défilent, tu comprends rien non plus, parce que même quand tu essaies de choper des phrases, tu comprends pas de quoi il est question. Alors là, mon regard se
tourne. J'aurais dû aller le voir, je sais, mais j'ai été coincé par mon emploi du temps.
Voilà, donc je pense que toi, tu vas trouver plein de références par-ci, par-là. Voilà, moi, je suis incapable de trouver les références, donc voilà. Mais voilà, donc pour moi, il n'y a pas un personnage qui va rattraper les autres. Je me suis pas identifié au personnage, c'est peut-être pour ça aussi que je suis passé un peu à côté du film, peut-être. Là où, franchement, le film est bien et pas bien, c'est qu'il a le défaut de ses qualités, c'est que David Fincher se rend compte qu'il livre un film ni blanc ni noir, et il juge pas ses personnages. Il fait un portrait, finalement... Tu sens qu'il essaie d'être le plus ressemblant à la réalité, c'est inspiré d'un bouquin. Un bouquin qu'a écrit l'une des parties prenantes du film, de Facebook plutôt, pardon.
Ben Mezrich qui écrit entre autres dans Wired et qui a suivi justement l'aventure Facebook et qui a fait plein d'articles sur le sujet. Il le suit vraiment depuis le début. C'est une des grandes plumes de Wired. Il a aussi collaboré, si je ne me trompe, à CNN sur les parties sur le net.
Voilà, donc c'est un film qui est super sobre. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu Zodiac, ça pourrait surprendre de la part de Fincher, qui avait une signature visuelle, une tension graphique avec Seven, avec Fight Club, etc. Et là, c'est vrai que depuis Zodiac, il amorce un virage dans sa filmographie où il va vers plus de sobriété, plus au service des histoires et des personnages, et plus des films ancrés dans le monde réel. Donc, puisque Zodiac, c'était d'après un fait réel des années 70, celui-là, c'est ce qui s'est vraiment passé à peu près depuis 2003-2004. Donc c'est vrai que Fincher, il commence à être un réalisateur plutôt sobre.
Mais est-ce que le film est,
si tu peux parler dans l'axe du micro, vraiment.
Merci. Ben ouais. Est-ce que le film est assez harvardien dans le sens où tu parles de Zodiac est typiquement bien ancré dans son univers. Les bagnolets 70, les costumes 70, les expressions, les attitudes bien du moment.
Ah oui, là c'est 2004, donc c'est le boom de la net économie, je crois que c'est ça, hein,
start-up. Les start-ups, ça a été 95 à 2001. 2001, il y a eu la crise financière qui est arrivée en mars, avril, où tout s'est effondré, tout l'investissement, où on a eu Digg et tout ça qui sont explosés. C'est vrai que Facebook est arrivé après, surtout qu'il y avait déjà ce marché MySpace, mais ça on va en parler tout à l'heure, par le biais d'une chanson, et Facebook justement a profité de ce début de retour, mais en dehors de la valorisation uniquement sur les utilisateurs, qui a été le gros péché d'orgueil de la première ère des startups. Donc voilà.
Et en tout cas, c'est très ancré à Harvard, parce que tout début ça se passait à Harvard, et on a quand même la jonction entre ce que pensent les deux jumeaux qui étaient vraiment à l'origine de Facebook et qui ont été doublés par Mark, ça se passe à Harvard. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que il y a des moments typiquement décalé et très comique, mais tu ris pas. C'est que tu souris. Alors par exemple, les deux frères, à un moment donné, ils se posent la question, est-ce qu'on va lui enquiller un procès ou non? Donc c'est toute la question du code moral de Harvard. Donc ils vont chercher dans les bouquins, savoir qu'est-ce que le code moral leur permet de faire par rapport à un ancien collègue de Harvard. Hein,
faut savoir que Harvard, c'est la faculté de droit de référence des États-Unis. Hein.
Voilà. Ouais. Donc il y a une scène absolument inénarrable.
Sur la côte est.
Ouais. Une scène inénarrable où il y a les deux jumeaux qui vont aller voir le proviseur de l'école et qui vont essayer de lui demander de les soutenir dans leur action contre Mark. Et le gars, il y pompe rien à ce qu'il y baragouine comme charabia. Et c'est une scène qui est assez longue en fait. Mais tu vois que les deux jumeaux sont déboutés et ça, conjointement à l'échec qu'ils ont en aviron, font que finalement ils vont se déchaîner sur Mark Zuckerberg. Et alors, avec le recul. Voilà, mais tu rigoles pas, mais tu sens, c'est complètement décalé. Tu dis, ah putain, les pauvres.
Donc voilà. Pauvre petit geek boutonneux. Pauvre.
Voilà, mais c'est en fait tout le film, ça c'est entre deux. Il se positionne pas vraiment, mais tu sens que le film, vraiment, c'est les qualités du film. C'est voilà, y a pas de jugement, il y a pas de noir, de blanc, de trucs vraiment caricaturaux. Ils essaient de coller au plus
près.
En même temps,
c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement rare les films aux États-Unis sur les entreprises qui existent encore. Et qui essaie de faire de parler sans tomber dans la légende dorée des créateurs de ces entreprises. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas. Il y a peut-être eu Tucker, mais la boîte avait été coulée au début des années 50. Donc
tu as pas suffisamment de recul par rapport à ce qui s'est passé.
Oui.
Mais en même temps, moi j'ai trouvé plutôt un avantage. Bon, j'attends de voir si tu me dis que le film est ni noir ni blanc, mais que des nuances. Au contraire, moi, ça m'interpelle parce que je trouve que c'est mieux travaillé que montrer ça, c'est le gentil, ça, c'est les méchants.
Oui, voilà,
au contraire.
C'est ça, c'est les qualités du film. Par contre, attends. Tu perds un petit peu le côté punch.
Attends, excuse-moi, c'est mais d'un grave. Autre côté, le scénariste, dont j'oublie à chaque fois le nom, Aaron Sorkin, c'est le créateur de À la Maison Blanche, West Wing. Donc, c'est le créateur du style de série avec des dialogues en marchant et qui sont des longues tirades, etc. Et où, justement, tout est affaire de compromis. C'est justement sa spécialité.
Mais en fait, le film n'est qu'un compromis. Ça parle de compromis. Ce sont des gens qui vont régler à l'amiable les procès, qui vont essayer de. Mais en fait, ils règlent pas leur compte avec leurs anciens amis. C'est juste qu'ils se quittent sur un procès. Ils se voient plus après. L'arrivée de Sean Parker dans le duo d'amitié qu'il forme avec Eduardo au départ, ben Mark, il est obligé de composer avec les deux amis et il ne fait jamais de choix. Et le film c'est ça. C'est un festival de non-choix, de compromis, de partout. Et le film se clôt sur, ben voilà, Facebook est là, y a tout le monde est un peu gagnant parce qu'ils ont chacun eu leur part du gâteau avec des sous, mais tu vois que tout le monde a essayé un peu d'enculer tout le monde, mais il n'y a pas vraiment de le bad guy d'un côté, le gentil de l'autre, il y en a qui sont fait plus enculer que les autres, voilà, c'est juste ça.
C'est toujours été comme ça.
Voilà, et le film en fait te laisse à la fois une impression de, c'est pas mauvais, mais une impression tiède aussi, parce que l'aventure n'est pas finie. Facebook n'a jamais
il
été aussi
encore,
grand.
Voilà, c'est absolument immense. La valorisation de Facebook a été dépassée par celle d'une entreprise qui est spécialisée pour faire des jeux qui se déroulent dans Facebook, alias Farmville. Ça reste. Enfin, il a atteint le stade critique sur lequel il ne peut plus s'effondrer. C'est le grand mythe aux États-Unis, la valorisation de certaines entreprises. Et c'est vrai que il est encore relativement jeune, hein, Mark Zuckerberg. Mais il est un peu moins par rapport à quand il avait 19 ans, puisqu'il en a 26, je crois, actuellement.
Oui,
28.
28.
Ah, ta gueule, allez, non, c'est bon, c'est énervant de savoir quel âge il a.
Bon, 26.
Voilà, donc en
gros. Il est né en 84.
Et ce qui frappe, c'est que le film ne dit jamais si c'est un salaud ou si c'est juste un gars qui s'est fait un peu dépasser. Il y a une nana qui gère aussi les deux procès, elle lui dit, mais. Vous savez, moi je pense pas que vous soyez un con intégral, mais sachez que, par contre, c'est votre attitude, essayez de ne pas faire le con intégral quand même. Et en fait, tout est compris dans la phrase. C'est
une partie des révélations du livre venait d'emails qui s'étaient échappés et qui, on ne sait trop comment, et qui sont retrouvés dans le procès et qui ont été publiés.
Voilà.
Donc Zuckerberg lui-même ne peut pas nier ce qu'il a écrit, c'est-à-dire, j'arrive pas à croire qu'il y ait quand même des dizaines de milliers d'abrutis qui me confient tous leurs petits secrets. Je n'ai qu'une envie, c'est les exploiter. Et il le fait. Il tient son programme.
Voilà.
Donc lui-même qui avait dit qu'il était fan, d'ailleurs il exprimait sur sa page Facebook qu'il adorait Aaron Sorkin comme scénariste. Au moment où le film a commencé à être produit, il a retiré le nom. Et on sait juste qu'une chose, c'est qu'il y a deux semaines, il a remis le nom après avoir amené ses salariés à voir le film au cinéma.
D'accord.
Bon. Alors, il y a des petites nuances. Effectivement, le scénariste et Fincher ont contacté Facebook pour avoir un petit peu plus de renseignements, pour travailler avec eux. Et Facebook leur a dit, d'accord, mais vous changez le nom, vous changez le nom Facebook, le nom des protagonistes, et vous faites un ersatz. Et là, le scénariste a dit, ah oui, Sorkin, vous jouez comme ça ?
Sorkin, okay. Qui est considéré comme absolument incontrôlable et punk.
Il leur a dit, au revoir. Et depuis, ils n'ont jamais eu de contact avec eux. Et depuis la sortie du film, où on a commencé à avoir une mauvaise image de ce Mark Zuckerberg.
Enfin, il avait déjà une mauvaise image.
Hein. Mais le film a vraiment propagé une image un petit peu plus forte de ce côté-là. On a commencé à lui faire comprendre, tu devrais donner 100 millions de dollars à des écoles ou une fondation, je ne sais plus laquelle, mais tu ne devrais pas le dire, mais en même temps, tu devrais le faire dire par quelqu'un d'autre. Voilà, ça serait pas mal.
C'est ne pas t'en vanter, mais le faire savoir.
Ouais, le faire savoir, exactement. Et d'autres petits détails, comme ce que tu viens de dire, qui montrent qu'ils essayent de rattraper un peu le coup du film.
D'abord, ils sont pris des menaces de procès de l'Union Européenne parce qu'on ne peut pas se désinscrire de Facebook. Une photo qui est publiée sur Facebook, ou une musique que vous mettez sur Facebook, ou une vidéo que vous mettez sur Facebook, appartient à Facebook, vous en perdez tous les droits. Et l'Union Européenne a dit non, stop, parce qu'il y a des lois quand même chez nous, même si Facebook n'a pas de représentation en Europe. Ils ont été obligés de mettre un lien de désinscription définitif. C'est-à-dire quand vous désinscrivez définitivement, on enlève aussi vos messages et on enlève aussi les traces où vous étiez. Mais Facebook joue un peu là-dessus, puisqu'il change l'adresse du lien toutes les semaines et l'endroit où le trouver. C'est pas très... Enfin voilà quoi, c'est-à-dire ils veulent bien se comporter, ils veulent bien faire... Oui, c'est vrai qu'on va vers une certaine volonté, mais d'un autre côté, elle est pas franchement...
Effectivement, là. Bon déjà, quand tu veux te désinscrire, il faut 15 jours minimum... avant que ton désinscription soit réellement effective, à condition que tu ne reconnectes pas dans ces 15 jours.
Sachant que chaque fois que vous voyez une image « j'aime » sur un blog ou sur un site, etc., ou un encart « rejoignez le monde » sur Facebook, c'est une reconnexion. Donc il faut être déconnecté d'Internet pendant 3 semaines.
Et avec ce problème de cache, les photos, les commentaires, etc., sont toujours actifs. D'une manière ou d'une autre. D'ailleurs même, supposons que Xavier se soit inscrit sur Facebook, chose qui n'est pas encore faite, vous le savez bien.
Je rappelle qu'il y a un club de fans qui veut que j'y aille.
Exactement.
C'est contre ma religion.
On met une photo de lui, on le tag à son nom, du fait que ça a été tagué par quelqu'un d'autre, c'est dans l'historique de l'autre personne et ça ne peut pas être enlevé par la personne en question même.
Là où c'est encore plus drôle, c'est que les gens croient que sur Facebook, quand on met un compte privé et discussion en privé, ou même qu'on fait du chat en privé, c'est complètement faux. Vous utilisez par exemple un site comme 123people.fr, vous tapez un nom, toutes les photos qui ont été taguées, privées, etc., non seulement elles ressortent, mais les commentaires qui vont avec. Donc c'est la privacy, c'est-à-dire la notion de vie privée, etc., disparaît, à tel point que même les mecs de Google, qui aussi sont empêtrés dans une situation à peu près équivalente, ont dit, mais il suffit que, un, vous ne fassiez pas de conneries, deux, vous changez de nom.
Ou trois, cette semaine, ça a été, vous changez d'adresse, si la Google Street, enfin si la Google Car passe devant chez vous.
Ouais. Bah, de toute façon, cette notion de vie privée que tu évoquais juste avant, hein, ça a toujours été une notion complètement pervertie. Depuis le départ, parce que bon, on peut pas parler de vie privée quand on expose à la face du monde, je veux dire, ses pensées, ses.
Oui, mais c'est quelque chose.
À travers un ordinateur.
C'est quelque chose qui est hors de contrôle. De toute façon. C'est quelque chose qui est hors de contrôle. Moi, j'ai un blog, tu as un blog, Thomas a un blog, JB a un blog, il me semble.
J'ai un blog. Voilà. Mais je l'ai fait moi-même.
Vous contrôlez, c'est-à-dire, vos données restent votre propriété, vos textes, vos écrits, etc. Vous censurez ou vous modérez les commentaires. Ce que vous écrivez, c'est vraiment ce qui vous appartient et vous le revendiquez en général. Enfin, nous le revendiquons. Alors que sur Facebook, quelqu'un qui met un commentaire sur un mur, on ne peut pas forcément le retirer. Il y a eu un exemple hilarant cette semaine d'une fille qui a postulé à Paris pour un emploi de commercial et qui a dit « Ah ouais, mais elle m'a pris de mots, etc. » C'était vraiment une salope mal baisée. Manque de bol, la recrutrice est tombée sur le message, l'a commenté derrière, a été d'une violence et la fille est grillée. C'est-à-dire que elle a découvert tout d'un coup que tout ce qu'on écrit sur Facebook, les recruteurs ont des sites spécialisés qui permettent de voir tout ce qui a été écrit par une personne, et ça y est. elle est finie. Comme emploi de commercial,
enfin,
elle
peut plus changer. C'est pas des sites, mais ils ont des employés qui sont spécialement pour ça, pour chercher...
Non, c'est un site payant. Pour 20 euros, je peux te ressortir tout ce que, allez, au hasard, Christine a pu écrire, etc. Et ça va hyper loin.
Bon.
Ça fait peur.
Voilà, donc The Social Network, je peux pas dire que j'aime, c'est mais j'ai participé à l'événement.
Voilà.
Voilà. Et donc je le partage.
Alors,
Donc de David Fincher avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake et Andrew Garfield qui est encore à l'affiche. Donc
Juste une chose, depuis tout à l'heure, on entend la bande son de Train 13 Nord qu'il a mis librement sur le net. 6 morceaux, sachant que la bande son complète c'est un double album qu'on peut commander aussi sur le net à 9 euros. C'est toujours le principe de Très 13 Nord, de faire vivre la musique par internet gratuitement.
C'est un pionnier lui hein, dans ce style hein. C'est un des pionniers hein, qui a décidé depuis le départ avec Chuck D de Public Enemy dès le début des années 90 ces musiciens là disait, de toute façon, l'avenir de la musique, c'est pas la musique payante, c'est plus les majors, c'est que dalle, c'est le net, c'est la musique.
C'est ce qu'on appelle le CTW, le contact avec contact avec les fans et la gratuité pour amener à acheter du payant.
Voilà.
Et c'est là-dessus, il a toujours été en conflit avec Warner, boîte qu'il a quittée. D'un autre côté, il y a ça. De notre ensuite, il y a sur Arrêt sur Image, Rafik Djoumi qui a fait un excellent article qui s'appelle Zuckerberg contre les murs invisibles du jeu social. C'est des sources méconnues du film Facebook et aussi. Pourquoi l'architecture a un rôle si important les réalisations les réalisations de David Fincher, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, pour terminer, il y a eu une bande-annonce parodique qui s'appelait The Other Social Network, qui parlait de MySpace. MySpace et ses 28 millions d'amis. La tagline, c'était « On ne peut pas se faire 28 millions d'amis ». Sans être suivi par 25 millions de spam bots. C'était très drôle. Et évidemment, c'est l'immense clin d'œil qu'a fait un groupe qui s'appelle les Rois de la Suède, dans lequel il y a quand même des gros fans de Facebook qu'il y a dedans. Et ils l'ont massacré et c'est pour le plaisir, c'est maintenant.
Dernière fois je me suis connecté, j'ai vu les mêmes pubs qui traînaient là depuis un an, un siècle, une éternité. MySpace, tu vas virer la moitié de tes employés en corps de carré, tu rendras service à l'humanité. T'étais le premier site communautaire avant que Facebook te prenne par derrière. MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Tu veux encore y croire, mais tu te vois la vérité. Il te reste plus que des groupes de profs sans dignité qui spam partout pour des concerts dans des bars qui vont fermer. C'est très inutile car plus personne n'est connecté. Y'a plus que des pédophiles à la traîne qui se parlent entre eux en anglais alors qu'ils habitent en fait dans le même quartier. Parce que les jeunes sont tous partis maintenant sur Facebook faire des quiz trop marrants. MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Début MySpace c'était déjà moche mais on était émerveillés. Tout le monde avait le même site avec chacun ses couleurs à la con. Chacun son petit casier dans un colcos magique décoré par Benetton. MySpace la HLM de la musique, l'Algeco de l'amitié. Mais tu n'es plus rien, non tu n'es plus rien. Dans les fils du web tu t'es pris les pieds. Sur la planche de surf de l'internet, désormais tu n'es plus qu'un vieux clouillé. On était tous amis en un clic, du sexe plus gratuit sur Mythique. Mais c'est l'hôpital qui se mord la queue. T'as plus tri, tu cliques toi-même sur tes bannières. Parce que MySpace tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Restera que toi, Tom Tom, avec tes 50 millions d'amis fantômes. Tu fais quoi maintenant qu'on est tous partis? À qui t'envoies tes mails personnalisés, tout moisi? Oh, comme MySpace roulette, t'as dû en profiter. Avec tes têtes de ricains sympas, t'as dû t'en envoyer des petites minettes de 16 ans. T'as dû en brancher un paquet. Mais moi qui voulais être vraiment ton ami, tu ne m'as jamais parlé. Oh, MySpace, c'est fini ta dictature avec les maisons de disques. Coco, tes morceaux sont pas mal, mais t'as pas d'amis. Oh non, t'as pas de visite. Oh, MySpace, tu vas mourir et Facebook ne nous a même pas payé vraiment. Ils nous ont juste donné 130 fans, mais cette chanson on l'aurait faite gratuitement. Oh, MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent.
Les Rois de la Suède, Best of Volume 1, l'album est sorti en virtuel, en dématérialisé cette semaine et sort le 3 novembre normalement dans les bacs. Et comme Poulpe passe pour le Toulouse Game Show, je pense que peut-être il sera avec Yvan.
C'est le seul des nerds qui passe pas au Toulouse Game Show, ouais. Puisqu'il sera en tournée avec les Rois de la Suède.
Voilà, et après l'Eurovision, donc les Rois de la Suède, projet vraiment délirant et sur lequel la radio tourne à fond dessus en ce moment.
Oui, c'est marrant que tu parles d'Eurovision, puisque l'un des cofondateurs de les Rois de la Suède, Yvan, et de Fatal Picard.
Oui, tout à fait. Oui, c'était lui qui courait la Love in Paris, enfin bon, tout ça. Rien à voir. De quoi?
Je me disais que ça ressemblait vraiment au Fatal Picard.
Hein. Voilà.
Voilà. L'explication, elle est là. Et l'ensemble de l'album est très bon. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui veut me l'emprunter, du coup. Ah si, je sais très bien, puisque du sport, non, l'avait passé avant.
C'est moi qui te l'ai filé, alors bon.
Voilà, mais on va arrêter de faire la pub de manière et on t'a supplé en week-end, on continue. JB qui nous a rejoint en star américaine. Et ma foi, il va se dire, mais de quoi du sport va-t-il parler aujourd'hui?
Mais quel morceau vais-je bien pouvoir passer?
Mais j'ai entendu le nom du CD, donc je sais très bien de ce que c'est.
Ah non, mais je parlais pour toi, là.
Ah, non, je veux un indice, hein.
Non. Ah bon, t'as pas un petit morceau, là, en ce moment,
qui me met bien la tête?
Non, le provoque pas.
Si, j'en ai plein, mais j'ai laissé la voiture juste à côté.
Okay.
Je peux aller chercher, il est dans le lecteur CD.
13h25, hein, du sport dans 5 minutes, et qui va parler de...
Là, actuellement, c'était du Neubotten que j'écoutais.
Ah, carrément, quoi.
Oh, bah, bon, d'accord, ok. Passable.
Non, je pensais à un truc récent, nouveau, quoi.
Récent. The National.
Ouais, d'accord.
Vas-y. Bon, vous arrêtez un petit peu vos crasses, hein, là.
Grinderman. T'as un truc plus récent?
Ouais, Grinderman, d'accord. Ok.
Bon, ok.
Mais pas de The National.
Dus.
Ok, de la télé à présent avec un petit peu de série. Bon, il y a une seule série inédite. Et en plus, qui a vraiment pas été annoncée, il a fallu que je me feuillette toutes les pages de la semaine du programme télé pour tomber dessus. Alors que dans les premières pages d'annonce et tout, on te met toujours un grand spot sur une série, sur un personnage, sur un acteur, une actrice qui va apparaître dans une série et tout ça. Et là, bon, c'est quand même une des séries, c'est la série de science-fiction qui a le record de durée de longévité. C'est donc
Stargate.
Non, Doctor Who.
Tout à fait.
Non. Oh merde.
Alors, Stargate Universe.
Alors on sait que Stargate, bien, il y a quand même deux versions.
On en parlait hier.
Il y a deux versions. Il y a la première Stargate SG-1, c'est-à-dire la série originale
avec Jack O'Neill,
avec tout ce qu'on connaît de toute façon, et qui a quand même duré 12 ans. Hein, c'est bon, le record de Star Trek battu à plate couture d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Stargate Atlantis, qui a un petit spin-off, enfin bon, sympathique, ouais, mais bon, bof. Et là arrive une troisième série Stargate, qui n'a été annoncée sans tambour ni trompette, Stargate Universe. Stargate Universe qui est sorti aux États-Unis en début de cette année, me semble-t-il, si je me trompe pas.
Oui, elle est arrivée tout récemment, mais je crois qu'on parle déjà de la déprogrammer. Enfin, Syfy voulait faire un choix. Donc.
Voilà, donc, là, bien, on s'attendait à ce que ce soit programmé quand même sur une chaîne, on va dire, de standing, ou une chaîne spécialisée. Tu parlais de Syfy juste avant. Eh bien non, ce n'est pas sur Syfy, mais c'est sur une chaîne qui... que j'ai l'habitude d'encenser, parce que c'est une des seules chaînes qui nous diffuse de la série, mais qui nous la diffuse dans l'ordre, et qui nous diffuse la série soit en version originale, soit en version française.
C'est pas Arte, quand même.
Non, c'est Série Club. Sur Série Club, donc, qu'on assistera au début de Stargate Universe, dont la première saison fait quand même 20 épisodes. Alors là, le topo est un petit peu différent des autres séries Stargate, à savoir que ça va se passer pratiquement uniquement sur un endroit. Il s'agit plus de se balader à travers la Porte des Étoiles, puis aller tomber sur des extraterrestres belliqueux qui veulent, eux, franchir la Porte des Étoiles dans le sens inverse pour annihiler la Terre, enfin tout ce que vous voulez. Non, là, eh bien, il s'agit plutôt d'un passage secret que vont emprunter les astronautes, mais pour se rendre sur une planète qui a priori n'existe pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pitch, le Stargate Universe, mais avec quand même la présence d'un bon casting, on va dire, avec David Blue, avec Ming-Na Wen, et surtout avec l'immense Robert Carlyle. Alors là, rien que pour Robert Carlyle, ça vaut son pesant de cacahuètes, il n'y a pas de problème, parce que bon, c'est quand même l'un des meilleurs acteurs anglais actuellement en activité, sans problème.
Oui, oui, c'est sûr.
Là, sans problème, hein, tu vois, là, on l'a vu dans à pratiquement tous les genres du cinéma. Hein, dans le polar, dans la chronique sociale,
dans l'horreur,
dans le western même, le truc qu'il a fait où il mange des, où il se bouffe dessus quoi.
Ah c'est oui le film de la nana là.
Voilà,
avec les cannibales.
Ouais ouais.
Vorace.
Ouais,
exactement.
Ouais. Avec Guy Pearce.
Donc il a fait pratiquement dans tous les styles et il s'en sort toujours les doigts dans le nez, tranquille. Donc ça peut valoir le coup. C'est sur Série Club et c'est à partir de mercredi prochain, 20h40. Mais trois épisodes à la suite.
C'est pour ça qu'il a été un méchant dans les James Bond. À chaque fois, quand ils prennent un méchant, chaque fois, c'est parmi les meilleurs acteurs au monde entier, quoi.
Ah bah oui, mais ça c'est obligé. Obligé, hein. Si tu as un bon film, c'est avec un bon méchant, quoi. Si le méchant est mauvais, le film
mais
est mauvais.
Mais il faut qu'il trouve toujours un bon acteur. Il trouve toujours un très bon acteur et ils avaient pris Carlyle.
Ah, ça dépend, Sophie Marceau.
C'était pour le méchant que
non,
je
mais ça c'est une bonne girl.
Oui, mais Sophie Marceau, c'était la méchante aussi.
Oui, mais c'est, ouais, mais c'est la bonne girl aussi.
C'est les Français.
C'est entre les deux là.
Les Français ont toujours été fourbes.
C'était un petit peu comme Dolph Lundgren dans Expandable.
Les Français ont toujours été fourbes. Michael Landal, le dernier méchant de James Bond. Oui, Almaric, il a été fourbe, il a été mauvais comme méchant.
C'est vrai.
Revenons donc à ce Stargate. Donc je rappelle, c'est mercredi prochain à 20h40 sur Série Club en version multilingue. Sinon, au niveau d'autres séries, dont c'est le début de saison, on a True Blood, saison 3 qui démarre sur Orange Cinémax. Ce sera mardi prochain à 20h40. Alors pour ceux qui ont déjà suivi True Blood, hein, c'est histoire de vampires, d'accord, ok. Et bizarrement, parce que moi je sais pas, moi
personnellement,
parce que c'est Orange Cinémax donc qui diffuse, c'est Orange qui a les droits sur True Blood de la série, mais qui les revend bien entendu à d'autres chaînes. Et c'est pour ça qu'on a pu
chez
voir.
Orange, chez Orange Cinémax, tout est à revendre, même la chaîne.
Alors, ouais, ouais, non, mais c'est pour ça qu'on a pu voir True Blood sur une autre chaîne, à savoir NT1, me semble-t-il. Et là, la saison 3, bien, c'est une saison qui a été super suivie aux États-Unis. C'est une saison qui a fait remonter, mais alors pratiquement doubler le taux d'audience aux États-Unis. Ce qui fait que bon, la chaîne mère qui diffuse True Blue aux États-Unis, HBO, a décidé de programmer une quatrième saison qui est actuellement en cours de tournage. Bon, moi personnellement, j'ai pas tellement accroché à cette série. J'aime bien les trucs de vampires et tout, mais là, bon, j'ai un petit peu de mal.
Y a pas du le casting sexy dedans,
hein,
y a dans pas. True Blood, y a pas une dimension sexy.
Il y a une dimension sexy, mais chez les vampires, il y a toujours eu une dimension sexy de toute façon.
Oui, mais c'est l'intérêt.
Ouais, mais quand même beaucoup plus sale que le côté romantique.
C'est plus sale. Donc
non, c'est nettement plus rentre dedans, quoi.
Ce n'est pas
il
sale.
Faut dire. le casting est quand même pas mal, hein, avec Steven Moyer, Alexander Sarsgaard.
Viens au pieu que je te suce.
Et ça la fille, va pas, non.
Oh, pardon.
Et la fille que je me rappelle pas comment elle s'appelle. Mais enfin bon, c'est quand même du bon casting, hein, y a pas de problème. Mais bon, je sais pas, il y a un truc qui me. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez rentre dedans. C'est du moins 12. Hein, c'est-à-dire que bon ben c'est pas pour les petits, ça c'est clair, hein,
parce déjà que pour voir les conneries de Jason Stackhouse
ouais ouais mais bon ouais. Ok, donc c'est True Blood, hein, c'est sur Orange Cinémax à partir de mardi prochain 20h40, c'est la saison 3.
13h3,
saison 2.
13h03, j'ai oublié de faire le top horaire.
Ah voilà. Le bip, ouais, il y a pas eu
voilà.
J'ai oublié le bip.
Je t'ai pris dans les histoires de vampires.
La saison 2 de Breaking Bad démarre ce soir, bah, tout de suite après les deux derniers épisodes de la saison 1. C'est sur Arte à partir de 22h35. Ce qui fait que ce soir, eh bien, vous aurez droit à, non pas un, non pas deux, mais à trois épisodes de Breaking Bad à la suite. Et là, bon, bah, on s'en lasse pas, de toute façon, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est une des meilleures séries de l'année. Sans problème. Un des meilleurs acteurs, Bryan Cranston. Bon, quand j'ai présenté la série, c'est quand même l'acteur qui a obtenu 3 années de suite l'Emmy du meilleur acteur dramatique. Bon, c'est pas n'importe quoi, je crois que c'est une première, hein, ça n'a jamais été fait. Hein, un acteur qui décroche l'Emmy 3 années de suite comme ça, quoi, pour un rôle récurrent dans une série. Donc là, ça montre. Et il n'y a pas que Bryan Cranston, hein, il faut dire que bon, bah, tous les autres à côté sont à la hauteur, il n'y a pas de problème. Alors Breaking Bad, c'est quand même assez bizarre parce que c'est quand même une série qui est assez lente, assez qui ne bouge pas beaucoup. Hein, y a pas tellement d'action. Y a beaucoup de séquences où les personnages sont en mode de pensée, on va dire, sont là en train de gamberger,
faut pas oublier que c'est Breaking Bad
d'avoir des dialogues comme ça sur la suite à donner aux événements et tout. Bouge pas tellement.
Faut pas oublier que Breaking Bad est produit par une petite chaîne, donc n'a pas un gros budget.
Ouais, AMC en l'occurrence. Mais c'est justement dans ces cassures de rythme que la série prend toute sa dimension, justement, parce que bon bah il y a vraiment des montées comme ça, quoi. Il y a vraiment des espèces de twists à l'intérieur des épisodes sur ce que va faire Bryan Cranston, Mr. White, quoi, son nom dans la série. Et c'est là que c'est vraiment très très intéressant. Bon, après, bon, il y a tout le. Et il y a aussi le fait que, eh bien, c'est une des seules séries où il n'y a pas vraiment un mec qui puisse rattraper l'autre. Il n'y a pas le good guy dans la série, le type qui voudrait désamorcer un petit peu la tension, les faux chemins que les mauvais chemins que vont prendre les différents personnages et tout. Non, ils vont tous leur petit bonhomme de chemin, ils continuent comme ça, mais bon bah c'est en train de partir en couille grave, hein, ça c'est vraiment pas de problème.
C'est vraiment du petit movie. Mais chez côté vraiment le côté bad guy loser, mais vraiment loser.
Ah, mais loser,
ils sont très bons dans leur genre.
Là vraiment c'est ça va très très ouais. Très loin. Ça y a pas de problème.
Et hein. Franchement tu te fends la poire. Quand tu vois ce qui se passe, tu dis mais non, bon allez pourquoi pas.
Ah ben si non mais c'est pour ça que bon bah par exemple dans l'épisode où ils doivent virer un cadavre et tout et puis que Ryan Cranston envoie son jeune acolyte acheter des bacs en plastique pour pouvoir mettre les morceaux de et pour pouvoir dissoudre le corps et que l'autre il se dit bon bah non ça me fait chier je comprends pas et tout, il se rend au magasin, il fait le con avec les bacs et tout.
Ouais, il se met à l'intérieur.
White lui dit bien attention, il faut que ce soit du PTEC le plastique, mais pas un autre plastoc et tout, il faut que ce soit vraiment cette matière. Puis l'autre comprend pas, non, rien à foutre et tout. Puis bon, comme l'autre, comme White, bah il est empêtré dans d'autres problèmes, ses problèmes familiaux, parce que bon bah il est obligé d'avouer qu'il fume de la marijuana alors que c'est pas vrai et tout, même s'il fume un joint et tout, pour que sa femme désamorce un petit peu le truc, il a changé de trip quoi du jour au lendemain depuis qu'il a appris qu'il a le cancer. Donc il est un petit peu différent quoi. Et l'autre, le petit jeune, il dit bon bah le cadavre il a pas voulu se le faire et tout, je vais me le faire, allez dans la baignoire et tout, je te mets le
coup classique, Victor Nettoyeur, je prends le cadavre,
je vais le dissoudre à l'acide fluorique et tout, manque de bol, l'acide dissout également la baignoire, le plafond.
Et la baignoire était au premier étage.
Et la baignoire était au premier étage. Alors quand le plafond cède. On en a pour son pesant de triple.
Problème. Il redécore le rez-de-chaussée d'une manière fabuleuse.
Mais heureusement, avec des gants en caoutchouc, on arrive quand même à nettoyer.
Oui, en PPTE, évidemment.
Quelle horreur. Ah, c'est ignoble. Enfin,
c'est vraiment la série à conseiller actuelle.
Voilà, c'est la série à conseiller de toute façon. Hein. La technique employée pour fabriquer le cristal meth et tout, quoi, dans leur petit camping-car, magnifique. C'est absolument excellent, de toute façon. Donc Breaking Bad, ce soir sur Arte à partir de 20h35. Les deux derniers épisodes de la saison 1, enfin il n'y avait que 7 épisodes dans la première saison, il y en a 13 dans la seconde saison, il y a une troisième en cours de tournage, ça je vous l'avais dit. Non, il y a une quinzaine de jours.
Ils en sont à la quatrième
saison. La quatrième saison.
Ils dissolvent un corps à l'acide fluorique.
Je sais plus quel acide.
C'est l'un des acides les plus puissants, je crois. Oui, aux États-Unis, pour l'obtenir, il faut une licence.
Mais White
en France, c'est pas évident.
White est prof de chimie, dans un lycée, dans un collège, oui, et donc a accès. Au début, on le voit bien. Hein, il va se servir dans le truc et tout pour.
Je vais voir sur mon catalogue.
Tout l'outillage indispensable pour fabriquer de la crystal meth, c'est-à-dire les bonbonnes, les machins en verre et tout, les pyrex,
et
tout ça, il va se le chercher.
à son
lycée,
travail,
à ouais. son travail, bien sûr. Et bon, bah, l'acide pour dissoudre, c'est pareil. Ah bah, des petites bonbonnes, des petits trucs de 5 litres. Allez, vas-y, c'est bon. Ça sort. Parce qu'il n'y a que lui qui a la clé. De toute façon, c'est lui le prof de chimie. Quoi. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème.
Alors, on peut parler du boulot des intendants, alors.
Ok, donc Breaking Bad, hein, je rappelle, c'est ce soir, 22h35, sur Arte. Il y a également New York Special Unit sur TF1 lundi à 22h30 avec, eh bien, alors la saison 11, on a dans la saison 11 de New York Special Unit, donc avec toujours avec Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, Richard Belzer, Dan Florek et Bidi Wong, voilà, celui qu'on trouvait pas la dernière fois, quoi.
Oui, 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 Bidi Wong, le prêtre asiatique.
Le prêtre,
il est pas prêtre, là il est pas prêtre. Il est psychologue.
Non,
prêtre,
non, ouais, non, non, dans Oz, il est prêtre.
Dans Oz, il est prêtre. Oui,
on se comprend.
Voilà. Ok.
Alors c'est assez marrant, je voulais faire un petit aparté. C'est que Bidi Wong, on sait qu'il est homosexuel, hein, il a fait son coming out et tout. Et justement, dans un des derniers épisodes de New York Special Unit, je crois pas celui de la semaine dernière, pas celui de lundi dernier, mais celui d'avant, justement, il y a une tirade que sort Bidi Wong à propos de l'homosexualité, à propos des homos, où il fait également son coming out, pratiquement. Pendant l'épisode.
Ouais, oui, mais je crois que je l'ai vu, effectivement. Hein,
ouais. Il fait son coming out.
Entre les filles et garçons et garçons, mais c'était l'épisode où tu as une militante qui est hyper active dans une histoire de meurtre. Hein.
Ouais.
Une militante lesbienne.
C'est assez marrant parce que c'est assez rare, enfin c'est bon.
C'est vrai que j'avais trouvé que la phrase était ambiguë malgré la traduction.
Non, mais c'est vrai parce que si tu connais Bidi Wong et si tu connais bon bah ses orientations sexuelles, la phrase prend un autre sens quoi. C'est assez marrant quoi de remarquer ce genre de truc. Alors moi c'est quand j'avais vu cet épisode, je m'étais dit tiens c'est marrant parce qu'on dirait que Bidi Wong veut prendre la suite de George Takei. Takei qui est Sulu dans Star Trek. Classique
et qui est
également homosexuel donc ouais. Déclaré
qui a été il a été
asiatique.
Premier couple homosexuel marié en Californie légalement
en plus quand il l'a fait je veux dire c'était quand même monsieur George Takei quoi hein, c'est pas le citoyen lambda de toute façon quoi enfin bref voilà un petit aparté en ce qui concerne New York Special Unit mais surtout pour vous dire qu'à partir de lundi alors ce qui est assez marrant dans cette saison 11 c'est que depuis le début de la saison eh bien on assiste plutôt à une valse de procureurs quoi bon chez les flics c'est toujours les mêmes mais depuis le début de la saison on assistait à une valse des procureurs bon Stéphanie March on la connaissait c'est la blonde mais qui n'était pas là au début de la saison, on se dit tiens, et pourtant elle est dans le générique et tout. En fait, elle était remplacée par Christine Lattie. Et Christine Lattie qui, sur 4 ou 5 épisodes, nous fait carrément un numéro, mais alors assez incroyable, hein, parce que bon, bah, au départ, elle vient foutre la merde et tout, elle vient s'incruster dans le commissariat pour que les inspecteurs fassent bien leur boulot, qu'elle ait le travail complètement mâché quoi, au tribunal. C'est-à-dire, bon, bah, j'arrive, j'ai tous mes trucs, je balance tout. Et je condamne le mec et tout, il n'y a pas de problème et tout. Et au fur et à mesure, elle va un petit peu évoluer, apprendre à connaître un petit peu l'équipe d'inspecteurs, Meloni, Argita et toute la clique. Et donc, elle va plus ou moins fusionner avec eux, sur les histoires, hein, bien sûr. Et on apprend que Christine Lattie, enfin son personnage, est quand même une procureure assez revancharde, on va dire, hein, qui s'est fait chier pas mal de temps, qui a été rétrogradée, qui avait un poste vachement supérieur, et qui, se retrouve de nouveau à s'occuper des crimes sexuels et tout. Bref, ça l'en... Et dans une dernière enquête et tout, enfin dans l'avant-dernière enquête dans laquelle elle apparaît, eh bien, elle truque carrément un procès. Elle arrive complètement bourrée, quoi, au procès. Enfin, le truc vraiment énorme.
Tu veux dire que une procureure a joué la courroie du pouvoir ?
Ah ouais, non, mais là, c'est.
Non, excusez-moi, la vanne était posée.
Là, Christine Lattie fait vraiment très fort. Alors, on se dit Stéphanie March, la blonde, a disparu. Christine Lattie la remplace, mais là, elle va se faire virer parce que bon, bourrée dans le tribunal et tout ça ne fait pas. Et en fait, Stéphanie March revient. Et là, à partir de lundi, eh bien, Stéphanie March, qui a également des problèmes professionnels, hein, parce que bon, depuis le début de la saison, elle le dit, j'ai mes supérieurs sur le dos, ils me font chier, nanana et tout. Elle devient vachement plus sèche. Il y avait une relation plus amicale avec les inspecteurs et les inspectrices du commissariat. Et là, elle est un petit peu plus sèche, un petit peu plus rigide, on va dire. au niveau du travail, ce qui fait que bon bah ok, on se dit bon bah c'est nouveau le gros bordel et tout, entre les flics et la justice c'est plus du tout la même chose et tout, et bah Stéphanie March, bien du fait de l'apparition à partir de lundi de Sharon Stone dans le rôle d'un procureur du district attorné, procureur adjoint substitut du procureur, eh bien on se dit que vivant qu'il lui est encore arrivé une couille à Stéphanie March et Sharon Stone, donc et là en guest star on va dire, mais pour plusieurs épisodes vu qu'elle va apparaître dans 4 épisodes de cette 11e saison de New York Special Unit, et c'est à partir de lundi 22h30 sur TF1. Il y a également, ah bah ça va commencer dans 3 quarts d'heure sur Paris Première. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une série. Si, c'est une série, parce que chaque année, t'as la même chose. C'est l'élection de Miss Monde.
Oh non,
ouais.
Oh
non.
Ça a lieu en Chine, à Sanya. 114 candidates, et c'est sur Paris Première à 14h, là, tout de suite après, en
alors,
direct.
Alors, je voudrais tant que dans le monde s'arrêtent les guerres. Je voudrais tant que y ait un peu plus d'amour. J'aimerais tant que les enfants arrêtent de mourir de faim. J'aimerais tant que...
C'est bon, Xavier, tu pourras postuler l'année prochaine.
Ok. Ouais, et c'est là où je suis censé mettre.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Voilà. Eh ben, ça va s'arrêter tout de suite. C'est même pas la Miss France qui participe à Miss Monde. Malika, la Bretonne, ouais, elle est pas là.
Elle est 10 jours. Oui, ça, elle a été éjectée, je crois.
Non, elle a pas été éjectée. Non, pour l'instant, elle est encore en place, mais elle a d'autres représentations.
Ouais, mais laquelle? C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la Miss France officielle ou l'autre?
Non, c'est l'officielle. Hein. Malika Ménard, c'est l'officielle. Attention, quoi. Et elle sera remplacée pour cette élection de Miss Monde par sa première dauphine, Virginie Decheneau. Autant.
C'est une petite
troisième. Autant Malika Ménard est relativement pas mal. Autant Virginie Deschenaux, c'est bon bah la caricature de la Miss Monde et tout, la blondasse et tout, donc bon on laisse tomber.
Formaté.
Rien à voir de toute façon, hyper formaté, donc mais c'est quand même cet après-midi, à partir de 14h sur Paris Première, l'élection de Miss Monde, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à hein, Miss Monde. Hein.
La favorite serait norvégienne.
Ah, donc voici l'intéressé de la bah, plateau.
Ça va nous changer des
comme
des
d'habitude,
pays du
JB fait le quota. Désolé.
Bon, allez, des films à présent à la télé.
Il fallait bien.
Avec ce soir sur RTL9 à 20h35, La Chevauchée Sauvage de Richard Brooks, réalisé en 1974 avec Gene Hackman, James Coburn et Yann Bannen. Alors, c'est pas vraiment un western. Bon, ça se passe quand même dans l'ouest américain au début du siècle dernier, en 1908. Ça raconte l'histoire d'une des dernières courses de chevaux organisées par un journal, le Denver Post. C'est une histoire vraie. De toute façon, bon là, qui a été romancé bien entendu, et ça raconte donc l'histoire de ce course de chevaux, 600 miles à parcourir au travers des États-Unis. Donc ça se laisse vraiment bien regarder, et c'est filmé par Richard Brooks, à pas confondre avec Mel, que c'est pas son frère du tout, ni même avec Peter. Mais lui, il a pas de S derrière Brooks.
Il y a pas de S à la fin.
Et même donc, James Lee Brooks.
Ouais, non, mais bon.
Lee Brooks Shield, hein, on peut continuer.
Richard Brooks, lui, il est né en 1912 et il a quand même fait pas mal de super films. Richard Brooks, c'est également le mec qui, quand il est sur un plateau et qu'il est en train de tourner, à la fin de chaque tournage, à la fin de chaque séquence tournée, il dit pas cut, il dit merci. Tu vois, c'est un petit peu le
respect.
Ouais, le respect et tout. Alors, c'est quand même le mec qui nous a fait en 53 Le Sergent La Terreur. En 55, Blackboard Jungle, Graine de Violence, où il y a le morceau de générique de fin, c'est le morceau de Bill Haley, Rock Around the Clock.
Ah,
et oui, et oui, avec Glenn Ford. Avec Glenn Ford dans le rôle du professeur, et avec un certain Sidney Poitier dans le rôle d'un des élèves turbulents, on va dire, de cette graine de violence. Il nous a fait aussi La Dernière Chasse. Alors là, c'est un film vachement intéressant parce que bon, c'est un western, mais qui parle des chasseurs de bisons. Buffalo Bill est dans le collimateur. Et en fait, ça raconte comment les colons américains ne pouvaient pas. Il y avait des périodes où les colons américains ne pouvaient pas s'opposer frontalement aux Indiens pour s'accaparer leurs terres. Mais donc, ils prenaient des moyens détournés pour les faire crever. À savoir, ils allaient descendre tous les bisons. Alors que les bisons, c'était quand même le truc principal pour certaines tribus d'Indiens. hein, qui faisait absolument tout avec le bison, la viande, la peau,
les outils avec les os. Tu as une scène qui est montrée dans un film récent, qui a une vingtaine d'années, avec Kevin Costner.
Oui, oui, tout à fait. Danse avec, je sais pas quoi.
Ouais, avec les pingouins,
mais,
là.
Ouais, danse avec les pingouins, mais là, bon, ok, c'est pas... bien que le film soit quand même vraiment bien, Danse avec les loups, mais là, bon, c'est quand même plus rentre-dedans, hein, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas de problème, les Native Americans doivent crever, il n'y a pas de problème, donc on va les affamer et tout ça. Il fait également une version des Frères Karamazov en 58, la même année que La chatte sur un toit brûlant. Avec Liz Taylor il nous fait Elmer Gantry avec Brut Lancaster, Lord Jim en 65, Les Professionnels en 66, et surtout, alors moi je considère comme son meilleur film, De sang froid, issu du bouquin de Truman Capote, tourné en noir et blanc, et là c'est carrément un chef-d'œuvre, quoi. C'est un des très 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 grands films et tout. Il raconte l'histoire de deux jeunes qui vont braquer une baraque et qui vont tuer les personnes qu'il y a dedans, et puis après ils vont se faire choper par les flics. Bon, c'est un fait divers vrai, authentique, hein, qui a été novélisé, qui a été romanisé, quoi, on va dire, par Truman Capote, et qui a été réalisé par Richard Brooks en 67. Et il fait également, un peu plus tard, en 77, Looking for Mr. Goodbar, le film avec Diane Keaton. Je sais pas si tu connais ce film.
Non, je suis pas celui-là.
Enfin bon, qui est pas mal aussi, qui est vraiment très bien. Voilà, c'est ça, Richard Brooks, à l'occasion donc de la Chevauchée Sauvage ce soir sur RTL9 à 20h35. Demain sur Arte, le chien des Baskerville.
C'est du sport. Ce serait bien si, avant que tu marques une petite pause pour que je remonte, pouvoir faire un enchaînement, tu vois, entre les deux films, parce que là,
tu as
un peu speed, quoi. Hein.
Demain, Le Chien des Baskerville de Terence Fisher avec Peter Cushing, Christopher Lee, André Morel. Terence Fisher qui a été le spécialiste, on va dire. Hein.
C'est pas la soirée Christopher Lee, justement ?
Et avec Christopher Lee, oui.
Oui, mais c'est pas une soirée à thème.
C'est thème Christopher Lee. Donc, alors, avec en plus un documentaire allemand, inédit, qui date de l'année dernière, 2009, consacré à la vie et à la carrière de Christopher Lee. Là, je vous enjoins. Bon, Le Chien des Baskerville, on l'a déjà vu, revu. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, les gens qui n'ont pas vu, ça vaut le coup. Hein, c'est un des bons bouquins.
C'est le classique.
C'est le classique de Conan Doyle, hein, avec Sherlock Holmes, bien sûr. Mais Christopher Lee, c'est une putain de carrière, hein, qui a commencé dans les années 20. Alors donc, c'est pas n'importe quoi. Hein, le type, il a tout vu et tout. Et c'est un mec absolument charmant, magnifique, qui parle 6 ou 7 langues. Enfin bon, c'est un des grands acteurs du cinéma, de toute façon. Alors, pour revenir à Terence Fisher, lui, Hammer Film, bien sûr, avec La Revanche de Frankenstein, Frankenstein s'est échappé, Le Cauchemar de Dracula, La Momie, La Maîtresse de Dracula, Les Maîtresses de Dracula, Les Deux Visages du Docteur Jekyll, Le Fantôme de l'Opéra en 62, et Dracula, Prince des Ténèbres en 65. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, chez Terence Fisher, mort en 1980, né en 1904. Demain également sur la chaîne Polar, deux films Polar Black. Alors là, c'est assez rare quand même. Le premier, c'est Le Casse de l'Oncle Tom. De Ossie Davis. Ossie Davis, acteur décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux ans.
JB.
Oui, non, je n'avais pas percuté.
Et qui, dans ce Casse de l'Oncle Tom, alors là, bon, c'est vraiment la traduction française qui est toute pourrie, hein, de toute façon, ce film date de 70. Avec Godfrey Cambridge et Judy Pace. Mais en fait, c'est l'adaptation de La Reine des Pommes de Chester Himes.
Ah, d'accord.
Alors là, ceux qui connaissent le bouquin, qui ont lu le bouquin ou qui ont lu d'autres bouquins de Chester Himes, ils doivent se dire il y a de l'idée.
Je suis tombé en plein milieu, j'ai vu ce titre intrigant, je me suis dit bon, ça, c'est peut-être un truc vraiment bousique, etc. Et en fait, je me suis vraiment pris dans le film, quoi.
Voilà,
il est vraiment sympa.
C'est l'histoire de deux mecs, dont l'un qui s'appelle Cercueil, l'autre il s'appelle je sais plus comment, ils ont des noms pas possibles et tout. Et c'est vraiment rafraîchissant, c'est bien. C'est le polar black, quoi, ce qui n'existait pas tellement, hein, à l'époque, hein, de toute façon, quoi, vu que Chester Himes. Bon il a eu vraiment une vie vachement pourrie et tout, quoi. Grâce à la série noire, il a pu sortir ses bouquins parce que chez lui aux États-Unis personne n'en voulait, ou alors c'était édité vraiment presque à compte d'auteur, quoi. On lui a vraiment rendu hommage et tout parce que c'est un des grands de la série noire quand même, Chester Himes. Et à 0h20, alors c'est à 22h25, hein, c'est en deuxième partie de soirée, le casse de l'Oncle Tom. Et à 0h20, encore un film avec un black Ouais, Action Jackson, Craig Baxter,
oh,
Carl Weathers, Craig T. Nelson, Vanity et Sharon Stone, bien entendu. Lundi sur CinéFX, un film pour toi Thomas, à 21h, 2072, Les Mercenaires du Futur.
Oh non, c'est le truc
Lucio
italien
Fulci, ben oui, en 83.
Le nanar.
Ah oui, 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 oui.
Oh punaise.
Post-apo à ouais, fond les manettes.
Post-apo rital, ouais.
À l'aise, à l'aise. Donc c'est lundi sur
Qu'est-ce
CinéFX.
Qu'est-ce qu'il est pourri ce truc.
À 21h.
Oh,
mardi, sur Energy 12, Beowulf de Graham Baker.
Ah,
celui
le,
avec Christophe Lambert. Bah ben oui,
mauvais.
Bien sûr, bien sûr. Et mardi également sur Comédie, une soirée Aussies, une soirée australienne avec tout d'abord Einstein Junior de Yahoo Serious. C'est son vrai nom, c'est un comique australien.
C'était très bien ça.
Très très fun. Vraiment, vraiment excellent. Le coup de la bière avec la formule magique E égale MC2. Très très drôle.
Donc ça c'est un film qui date de 88, suivi à 22h15 de Kangaroo Jack de David McNally en 2003 avec Jerry O'Connell, attention,
ah ouais.
Jerry O'Connell donc, Anthony Anderson, attention, Anthony Anderson dans la dernière série, dans la dernière saison de New York District, hein, avec Jeremy Sisto, Estella Warren et Christopher Walken. Ou des non c'est des c'est une histoire de
kangourou
non de brigands de méchants qui vont en Australie et tout avec un magot mais se font dérober le magot par un kangourou.
Ouais. Et donc vous verrez la gueule dépitée de JB qui fait
c'est
eh oui,
c'est sur Comédie.
Oui, c'était, c'était classé dans le rayon enfant. Ça.
Comédie 22h15, donc mardi prochain. Mardi également, il y a du western avec sur ciné, cinéma classique Le Courrier de l'Or de Bud Boticher en 59 à Grand Olphcott et Virginia Mayo, où c'est des nordistes qui doivent convoyer de l'or, mais en territoire sudiste et tout, mais bon, ça se laisse regarder quand même. Alors sur TCM démarre carrément toute une rétrospective, pas une rétrospective, mais enfin plutôt une large diffusion des films avec John Wayne dedans. Et ça commence mardi donc
Monde
avec sur TCM à 0h, à 0h, à minuit, donc L'Allée sanglante de William Wellman en 55, où John Wayne ne joue pas le rôle d'un shérif. Il ne joue pas le rôle d'un chasseur de primes. Non.
Mais un indien.
Non.
Non.
Non, c'est un gangster.
Non. Il est exilé. C'est un patron pêcheur qui est exilé sur une petite île au large de Hong Kong et il va aider Lorraine Bacall.
C'est pas au large de l'île Galigali.
Non.
Pom Gali, pardon.
Non. Il va aider donc Lorraine Bacall. Il aide Lorraine Bacall à convoyer des émigrants chinois qui veulent justement se barrer de Chine populaire pour aller à Hong Kong. Et donc Lorraine Bacall, elle va convaincre ce vieux loup de mer qu'est John Wayne de pouvoir justement aider ces pauvres malheureux, ces pauvres R. C'est L'Allée sanglante donc sur TCM mardi prochain à minuit, mercredi sur NT1. Mercredi NT1, ça veut dire
ouais, Daube.
Voilà, téléfilm de Daube. Avec tout d'abord à 20h35 Time Cop 2.
Oh là là.
De Steve Boyum avec Jason Scott Lee. Attention, le seul mec qui était respectable dans la vie
vie de Bruce Lee.
Ah ouais, quand même quoi. Et Thomas Ian Griffith. Suivi de à 22h de Alien Hunter de Ron Krause avec James Spader, John Lynch
pauvre.
Et Gianni Nezer. Ah ouais, c'est comme ça quoi. Par contre, sur TCM, un chef-d'œuvre, carrément. Le bouquin, il est vachement bien. Et le film aussi, c'est Cour Vadis de Mervyn Leroy.
Merveille.
Peplum à fond les manettes et tout, quoi. Alors, le film a été réalisé par Mervyn Leroy, mais il faut dire qu'Anthony Mann lui a filé un petit coup de main, surtout pour les scènes d'action et trucs comme ça. Hein, donc, un film pratiquement fabriqué à deux mains avec Rod Taylor, Deborah Kerr, Leo Jen et Peter Ustinov dans le rôle de Néron. Je ne vous dis que ça, c'est absolument excellent.
Surtout que le roman d'origine est vraiment fabuleux. Bon, c'est un gros pavé, mais.
Ouais, c'est un pavé, mais
c'est un
pavé, super
bouquin. C'est une histoire, une famille qui se ruine, etc. Tout le reste.
Ça raconte un petit peu l'histoire de l'arrivée des premiers chrétiens à Rome.
Oui, c'est le pitch hein, de toute
voilà,
façon.
Voilà, c'est le pitch, quoi. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. Alors, le film, il dure vachement longtemps. Hein, il dure presque 3 heures, 2h40 et tout. Mais tu t'emmerdes pas une seconde. Hein. Mervyn Leroy, c'est également le mec qui nous a fait East Side, West Side, Ville Haute, Basse Ville en 49. Et qui nous a fait aussi le Little Caesar de 1930. Où Edward G. Robinson, ça devenait l'un des premiers patrons de la mafia au cinéma. hein, tout simplement. Et donc Mervyn Leroy réalise donc ce Covadis en 1951, diffusé sur TCM à 20h40, suivi de Hondo à 23h25, un film de John Farrow, le papa de Mia, avec John Wayne bien sûr, et Geraldine Page, où John Wayne ne joue pas le rôle d'un shérif, ne joue pas le rôle d'un indien et tout, mais joue le rôle d'un espèce de mercenaire et tout, éclaireur en temps de guerre, quoi. Donc rien à voir. Jeudi sur France 3, et là tu peux envoyer direct.
Ah ouais.
Vas-y, fais péter les cymbales.
L'allochiffrine.
Eh ouais, l'allochiffrine.
C'est le meilleur pour la valse.
À l'aise. C'est France 3 qui vous diffuse jeudi prochain une soirée hommage à Steve McQueen. Avec tout d'abord à 20h35 l'énorme papillon de Franklin G. Schaffner, avec outre Steve McQueen qui joue le rôle de papillon, donc reprend le rôle de Henri Charrière. Le mec qui a écrit le bouquin Papillon, qui a vraiment vécu dans les bagnes de Cayenne, mais qui a un peu pipoté l'histoire quand même, ça on l'a appris des années par la suite, quoi, hein, que bon, tout ce qui était arrivé dans, enfin tout ce qui racontait dans le bouquin, c'était pas exactement la vérité. Mais dans le film Papillon, Steve McQueen est excellent, et surtout Dustin Hoffman fait une composition absolument magnifique. Là, il n'y a pas de problème, c'est du très bon. Et après,
Bullitt.
Bullitt.
Le film aux 14 lignes de dialogue.
Quand t'as une musique comme ça, t'as pas besoin de dialogue, de toute façon. Alors Bullitt, donc après Papillon, c'est jeudi prochain sur France 3, 23h25. Mais sur Paris Première, jeudi prochain, il y a également une thématique avec un seul réalisateur, Michel Audiard. Michel Audiard, tout d'abord, alors lui c'était spécialiste des films, des titres de films à rallonge. À 20h35, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, avec Marlène Jobert, Françoise Rozet, Bernard Blier, André Pousse, Robert Dalban.
Ça va être encore un film à rallonge à mettre dans le résumé d'émission.
Et à 22h05, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Également Audiard. Alors le précédent de 68, celui-là de 69, avec Annie Girardot, Bernard Blier, Mireille Darc, voilà.
Oui.
Oh, j'arrive pas à me relire.
Et Jean.
Il est très drôle.
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu
pour des canards sauvages.
C'est pas mal, mais c'est un peu décousu. On va dire, on apprécie Audiard, le scénariste, mais pas forcément le réalisateur. Alors, c'est peut-être le cas de ce film. Mais par contre, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. C'est nettement mieux. C'est peut-être dû au fait que l'actrice principale est, à mon avis, plus conséquente. Annie Girardot le fait mieux que Marlène Jobert, enfin du moins dans ce registre, hein, parce que Marlène Jobert c'est quand même, elle est quand même bien comme actrice, hein, mais Annie Girardot s'en tire va quand même vachement mieux. Non, elle boit pas, elle fume pas. Donc c'est tout ça, c'est jeudi prochain sur Paris Première à 20h35, soirée Michel Audiard. Sur 13e rue, jeudi prochain, il y a également à 20h40 Implacable de Raoul Heimrich, une coproduction germano-suisse. Avec Gary Dourdan dedans. Eh oui.
Ah, bah oui.
Et avec Gary Dourdan,
ouais.
Et avec
CSI.
Et avec surtout Cosma Shiva Hagen. Qui est Cosma Shiva Hagen?
Mais c'est non, je sais pas.
C'est la fille de Nina, bien entendu. Bien sûr. Et comme vous aimez bien les téléfilms où il y a dedans des acteurs qui ont joué dans Les Experts, le même soir, sur Syfy à 20h40, Stonehenge Apocalypse avec Hill Harper.
Alors, c'est qui?
Alors, Hill Harper, c'est le black que t'as dans Manhattan. Et Gary Dourdan, c'est Warwick. Hein, bon,
oui, okay. C'est le black.
Hill Harper, c'est le black dans, avec Mac Taylor.
Qui était dans Las Vegas.
Oui.
Oui, voilà,
il n'y est plus.
Et ouais. Outre Hill Harper, nous avons également
un scénario de merde avec un titre pareil.
Peter Wingfield, rappelle-toi.
Ah, oui, Métos.
Métos, tout à fait. Oh, dans ce Stonehenge Apocalypse de Paul Ziller, qui est tout récent.
Oui,
le téléfilm est tout récent, puisqu'il date de 2010. Et ça raconte l'histoire de d'archéologues, d'explorateurs et tout, qui vont faire des fouilles dans Stonehenge, mais ils remuent des cailloux qu'ils auraient pas dû parce que ça fout le bordel.
La période de diffusion à la télévision des directs ou vidéos est de plus en plus courte. Hein.
Ah ouais, ouais. Par contre, il y a également du bon, du très bon. Il y a encore une soirée thématique, c'est la jeudi, c'est la soirée des thématiques sur TCM. Clint Eastwood, deux films, le premier Mystic River, magnifique, 20h40, le deuxième plus controversé, on va dire, parce qu'on ne savait pas trop quand le film est sorti à quoi s'en tenir quant à la personnalité de Clint Eastwood, quant à son bord, maître de guerre, donc
vraiment,
excellent. On ne sait pas
si c'est pro-guerre ou si c'est
militariste, si c'est on ne sait pas du tout.
Il est parfait, il est parfait en mec qu'on a envie de haïr à cause de sa gueule.
Tout à fait, tout à fait. Et je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu Valhalla Rising, je vous propose la préquelle de Valhalla Rising. Quand même, ça vaut le coup parce que c'est qui a certainement un petit peu inspiré, je pense, peut-être dans une autre vie, Nicolas Winding Refn. C'est Aguirre ou la colère de Dieu de Werner Herzog, avec l'immense Klaus Kinski sur Orange Ciné Novo, jeudi prochain à 21h. On termine avec vendredi, et là encore, un des très bons films allemands des années 70, fin des années 70. Il a d'ailleurs obtenu l'Oscar, c'est Le Tambour de Volker Schlöndorff, avec David Bennett qui est absolument excellent, hein, le petit gamin enfant, là,
Il a obtenu la Palme d'Or.
Et il a obtenu la Palme d'Or, je crois.
71.
En ex-aequo en 79 avec Apocalypse Now.
Ouais, ouais. Non, mais pas David Bennett, le film.
Oui.
Le tambour. Oui. C'est
ouais, des rares. Je crois que tu parles du tambour, pardon. Excuse-moi.
La Palme d'Or, je vous rappelle, c'est le film. Après, l'acteur, c'est notre palme.
Oui, oui. Hein. Non, c'est.
Non, c'est les palmes.
Dans le tambour, il y a également Mario Adorf et Angela Winkler qui est vraiment très très bien aussi. Ça, c'est sur Cinéma Club vendredi prochain. Vendredi prochain sur TCM, The Sun Chaser de Michael Cimino, qui est vraiment un super film, moi je trouve, avec Woody Harrelson et John Cena. C'est de road movie où un détenu qui s'est évadé et qui prend Woody Harrelson qui là il sait pas ce qu'il doit foutre et tout par hasard et qui se fait embarquer dans cette histoire et tout, et John Cena lui qui a des racines indiennes et tout, eh bien il sait qu'il a le cancer, mais donc il faut qu'il revienne sur la terre de ses ancêtres pour mourir et tout. C'est pour ça qu'il embarque Woody Harrelson dans cette espèce de road movie, mais c'est vachement bien foutu et tout. Et bon, Michael Cimino de toute façon a toujours fait pratiquement que des bons films, ce mec, hein, y a pas à tortiller du cul, hein, mais c'est comme ça, quoi. Sur CinéFX, vendredi prochain, il y a également Le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman avec Vincent Price.
Ouais.
Et sur Action, à 21h, La Malle de San Antonio. Alors non, c'est pas elle, non, c'est pas lui, hein, c'est pas Tony, c'est pas Eva qui a piqué La Malle de San Antonio. C'est Umberto Lenzi en 68, c'est un western spaghetti, bien sûr, avec John Ireland, Peter Lee Lawrence et Gloria Osuna. Sur Orange Ciné Géant.
Il est tard, là, du sport, et tu as Souchette qui
ben
dit
ouais, « Ah, je termine. Du sport !» Je termine avec sur Orange Ciné Géant, vendredi prochain 21h, Le Port de la Drogue de Samuel Fuller en 53, dont le titre original est Pick Up on South Street, qui ne parle absolument pas de drogue, du tout. Hein. Richard Widmark, il a des microfilms qu'il doit planquer parce qu'il est poursuivi par les flics, par les espions et par les ennemis, mais il n'y a absolument pas de drogue dedans, hein. C'est le titre français qui veut ça. Et à ses côtés, il y a également Gene Peters, film de Samuel Fuller qui a également fait tourner John Ireland, dont je parlais juste avant, dans I Shot Jesse James en 49, et qui a fait Le Jugement des Flèches aussi, qui a fait Les 40 Fusils, qui a fait Underworld USA, Shock Corridor également de Samuel Fuller. Fuller qui est né en 1911 et qui au départ n'était pas dans le cinéma, était journaliste. Hein, et d'ailleurs, c'était dans les années 20, le plus jeune journaliste à suivre les affaires criminelles pour un journal. Il a été, pendant la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, il a été mobilisé en 1942. Et donc, première division d'infanterie, il s'est tapé l'Afrique du Nord, la Sicile, la Normandie, la Belgique, l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Et il en a tiré un film, un de ses derniers d'ailleurs, en 1980, qui s'appelle The Big Red One, un film à la gloire de cette première division d'infanterie. Samuel Fuller, donc, c'est pour Le Port de la Drogue, c'est sur Orange Ciné Géant, vendredi prochain à 21h.
Non, 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 rien. Allez,
ouais, faites votre cirque dans votre coin.
Non, on t'expliquera après. Allez, Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Mais tout à fait. Aujourd'hui, nous avions sous la plage un pavé manga, Jack Sparrow croise un ours polaire, des courses de dragster, 500 millions d'amis, un anglais dans l'espace, du sexy sale chez les vampires, l'absence du beep et du good guy, une blondasse formatée, Kevin Costner qui danse avec les pingouins, le retour d'Action Jackson, de l'Italo Postapo, un kangourou voleur de magots, un John Wayne qui n'a pas joué que des shérifs et des cailloux qu'il ne fallait pas remuer.
Non, on a plein de super. Ils ont manqué tout ça.
J'ai pas senti la vieille anglaise.
Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et si vous retrouvez des chroniques écrites
comme par exemple, archives. Comme par exemple la chronique de Skycrawler, la chronique de Tista, Hayate The Combat Butler, et on mettra les liens notamment vers les chroniques de Harry sur Image, vers la parodie Social Network et tout le reste, c'est le clip donc des Rois de la Suède.
Vous pouvez donc laisser vos commentaires, poser vos questions sur le site web supplementweekend.fr
avec le lien vers le compte Facebook. Il faut aller dans espace abonné et vous avez le lien Facebook. Voilà, Club des Audilecteurs.
Vous écoutez FM sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, bipolarité pour les humains et pour les robots.
Eh ouais.
Ouais, va falloir m'expliquer ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
On parlera du journal d'une bipolaire d'un côté et puis de l'autre, et ce sera la suite de Pluto.
D'accord. Ah, ok. Allez, bonne semaine à tous.